Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Éloigner les jeunes Italiens de la mafia en partageant le témoignage d'un juge, c'est un programme dispensé dans une centaine d'écoles en Italie. L'Ukraine et les rivalités diplomatiques pour trouver un accord de paix, l'historien américain Timothy Snyder sera notre grand témoin. Lutter contre les fausses informations, à Bruxelles, le EU Disinfo Lab ne chôme pas. Voilà l'essentiel du programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour à tous. L'emprise de la mafia sur l'économie et la culture italienne n'appartiennent pas au passé. Pas plus tard que la semaine dernière, une descente de 1200 policiers à Palerme a permis de démanteler 4 clans et d'arrêter 143 criminels. L'emprise de la mafia sur les jeunes, c'est le combat d'un juge, Roberto Di Bella, mais aussi d'une association, BS, qui relaie sa parole dans les écoles. Après avoir travaillé en Calabre, sa présidente Bruna Siviglia a depuis fédéré de nombreux établissements dans toute l'Italie. C'est le reportage de Cécile Debarge.
Mi sentite?
Sì, la sentiamo benissimo.
Il est 10h30 environ. Bruna Siviglia apparaît derrière son écran. Doudoune noire, lunettes à la monture épaisse, elle vérifie que personne ne manque à l'appel.
Aujourd'hui, c'est un moment unique. 7 groupes scolaires sont présents. C'est tout un morceau d'Italie. Du Lazio, à Tivoli, à Catanzaro, Tropea, au Piémont, et encore Botricello, Cerva et Castellammare di Stabia.
Toutes ces écoles, dont la moitié se trouve en Calabre, participent au projet Justice et Humanité, libre de choisir, qu'a mis sur pied l'inarrêtable Bruna Siviglia. Pendant des mois, ces collégiens étudient le livre Libre de choisir du juge pour enfants Roberto Di Bella. Son visage vient d'apparaître sur la mosaïque qui s'affiche à l'écran. Costume gris, cravate rouge, petites lunettes fines, il est en direct de son bureau du tribunal pour enfants de Catane en Sicile.
Nous avons connu des meurtres terribles avec des voitures piégées, des scénarios dignes de terrain de guerre. À Reggio de Calabre, ce n'est pas rare d'entendre la nuit des explosions parce que des magasins menacés d'extorsion sont détruits par des bombes ou des cocktails Molotov.
Son témoignage est le moment fort du projet culturel Justice et Humanité libre de choisir. Il raconte comment 12 ans plus tôt, alors qu'il travaille encore à Reggio de Calabre, lui vient cette idée inédite. Proposer aux enfants de mafieux calabrais de quitter leur région pour recommencer leur vie ailleurs et ainsi échapper à leur destin criminel.
Dans les salles d'audience du tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre, on en a vu défiler des jeunes comme vous. Et c'est d'ailleurs la même chose à Catane où je travaille désormais. Des jeunes intelligents qui avaient du potentiel, qui auraient pu avoir une vie bien différente, aspirer à une vie de famille, un travail honnête. Et au final, ils ont eu une triste fin. Soit ils ont fini en prison, soit ils ont été tués.
Le juge Di Bella égrène ses souvenirs. Un ado de 17 ans responsable de 6 meurtres, d'autres enrôlés pour surveiller des entrepreneurs pris en otage pendant plusieurs mois et cachés dans les montagnes de l'Aspromonte. Ces histoires sont souvent bien loin de la vie des collégiens du Piémont qui sont connectés ce jour-là. Elles sont malheureusement moins exotiques pour les élèves du groupe scolaire calabrais que dirige la proviseure Isabella Marchio.
On plante chez nos jeunes, chez nos adolescents, des petites graines de l'égalité. Et c'est pour cela qu'on veut qu'ils soient toujours libres. Libres de choisir demain, quand ils seront des hommes, des femmes, des mamans, des papas, des citoyens, des citoyennes, pour contribuer positivement à construire une nouvelle société, une société du changement, y compris dans nos territoires difficiles. Comme ici, où, je dois le dire, malheureusement, nous avons eu en septembre une bien triste nouvelle, celle de 44 arrestations.
Ce jour-là, 44 personnes sont arrêtées entre Cerva et Petrona, deux toutes petites communes d'à peine 1000 et 2000 habitants dans la province de Catanzaro où se trouve le collège. Dans l'établissement, les élèves issus des rangs de familles mafieuses sont une minorité, mais tous sont exposés au climat pesant que fait peser la criminalité organisée sur ces territoires. Le juge Roberto Di Bella mesure le chemin parcouru.
En Calabre, on a enfin levé le tabou 'ndrangheta et mafia dans les écoles. Pendant des années, les enseignants n'ont pas parlé de ces sujets pour ne pas heurter la susceptibilité des familles. Et c'est enfin fini, et c'est un résultat extraordinaire du projet Libre de choisir dans sa version culturelle.
Tout est né de l'intuition de Bruna Sivilia en 2017. À l'époque, le projet libre de choisir du juge Di Bella a fait ses preuves. Il raconte cette expérience dans un livre, ensuite adapté en film par la télévision publique. Bruna Sivilia décide d'en faire des outils pour changer les mentalités des enfants de mafieux.
C'est un projet de prévention pédagogique. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Il faut faire en sorte que ces jeunes puissent comprendre que continuer à mener une vie comme ça, ça n'amène rien de bon. Évidemment, on ne leur demande pas de ne plus aimer leurs parents parce que ça reste leurs parents.
À l'époque, elle pousse d'abord la porte des foyers pour mineurs délinquants de la région, celle des quartiers pour mineurs des prisons. Les rencontres sont bouleversantes, les témoignages deviennent libérateurs.
Je me souviens qu'un jour, un de ces jeunes s'est levé et nous a dit qu'il voulait parler. Il avait les larmes aux yeux. Il avait essayé de tuer sa mère. Et il raconte, les yeux pleins de larmes. Moi, j'ai vu le film et après l'avoir vu, j'ai enfin compris tout ce que j'avais fait. Que j'avais essayé de tuer ma mère parce que sa mère avait une autre relation pendant que son père était en prison. Et elle avait essayé de reconstruire sa vie avec un autre homme. Ça, selon la mentalité du père, c'était un déshonneur. Et donc, lui devait sauver l'honneur de la famille, de celle qui les déshonorait.
Son intuition est la bonne. Un livre, un film peuvent bousculer les consciences de mineurs dont il est parfois dit qu'on ne peut plus rien en tirer. Bruna Sivilia.
On s'est tous mis à pleurer, on était très émus. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je le raconte, mais le vivre, c'est autre chose. Être là-bas, c'est autre chose. C'est comme ça qu'on se rend compte du poids, du fardeau, de l'angoisse.
Elle décide alors d'élargir le projet à tous les jeunes calabrais et convainc les écoles de faire étudier le livre aux élèves. En 2020, la région Calabre l'inscrit au programme scolaire obligatoire de ses collégiens. Le projet conquiert ensuite tout le pays. Prochain objectif, que le livre soit inscrit au programme national de tous les élèves italiens.
Les chefs de la diplomatie russe et américaine à Riyad pour parler de l'Ukraine, mais sans les Européens. Un contre-mini-sommet réuni hier à Paris en urgence avec 10 dirigeants européens pour rappeler l'impératif des garanties de sécurité fortes et crédibles. C'est peu de dire qu'il y a de gros tiraillements et des rivalités diplomatiques autour de l'issue de la guerre en Ukraine. Pour prendre un peu de hauteur, quoi de mieux que le grand historien américain Timothy Snyder, spécialiste de l'Europe centrale. Il vient de publier « De la liberté » chez Gallimard et il était en Ukraine la semaine dernière. Notre correspondante Emmanuelle Chaz lui a demandé si c'était aussi notre modèle démocratique qui se jouait dans cette guerre entre Kiev et Moscou.
Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment très fort que nous vivons en sursis et que les Ukrainiens paient pour cela, non seulement par le mode de vie qu'ils doivent endurer, mais aussi de leur vie. Ils payent cela de leur sang, littéralement, pour que nous puissions continuer à vivre dans notre Paris, notre Londres, notre Barcelone. Et j'ai l'impression que nous ne respectons pas assez tout le courage que cela implique. En quelque sorte, nous sommes un peu intimidés par ce courage et avons du mal à le reconnaître. Je pense aussi que nous n'arrivons pas à anticiper la gravité de la situation, combien les choses pourraient rapidement empirer pour nous si ce barrage venait à céder, si les Ukrainiens perdaient, s'il devenait normal qu'une attaque comme celle de la Russie puisse réussir.
Actuellement, dans le discours de l'Occident, on parle de cessez-le-feu, on parle de négociations. Que ressentez-vous à ce sujet, surtout lorsque vous parlez aux Ukrainiens ?
J'ai du mal à imaginer que Poutine et Trump puissent réussir à élaborer un traité de paix parce que je ne pense pas que Poutine en veuille un et je ne pense pas que Trump soit nécessairement capable de ce type de réflexion globale. Je pense qu'il pourrait arriver à un cessez-le-feu et si cessez-le-feu il y a, ce sera le moment décisif pour l'Europe. Car si c'est le cas, l'Europe pourra entrer en jeu, admettre l'Ukraine comme un membre de l'Union européenne, encourager les investissements privés, les investissements d'État, faire toutes les choses qui pourraient rendre l'Ukraine plus sûre. Le cessez-le-feu serait une opportunité pour l'Europe. Donc si Trump parvient à un cessez-le-feu, il ne faut pas se dire « Oh, un traité de paix viendra ensuite, attendons ». Ce ne sera probablement pas le cas. S'il y a un cessez-le-feu, les Européens doivent agir en leur propre nom, de leur propre initiative et dans leurs propres intérêts immédiatement pour essayer de rendre l'Ukraine sûre et prospère. En pensant aux exemples de pays comme la Corée du Sud ou l'Allemagne de l'Ouest, où il n'y avait pas d'accord de paix formel, mais où il y avait un cessez-le-feu et que l'investissement et le soutien sont venus, ensuite vous avez rapidement des pays prospères.
Nous parlons de la possibilité d'un cessez-le-feu, mais cela ne peut fonctionner que si les deux parties jouent sur le même tableau, suivent les mêmes règles. Or, nous avons vu à maintes reprises que la Russie ne respecte aucune autre règle que les siennes. Comment contourner cela ?
Oui, je parle ici de la situation très spécifique où un cessez-le-feu est déclaré. Si nous voulons avoir une chance que la Russie ne recommence pas la guerre, alors l'Europe doit faire quelque chose, parce que les Américains, comme nous l'avons déjà mentionné, ne le feront pas. Donc s'il y a un cessez-le-feu, la seule façon de dissuader la Russie est de rendre l'Ukraine aussi forte que possible, aussi rapidement que possible. Parce que, je suis d'accord, si un cessez-le-feu est négocié, c'est simplement pour Poutine un gain de temps. 9 mois plus tard, il recommencera la guerre, ou 12 mois plus tard, 15 mois plus tard. L'essentiel est d'intervenir en Ukraine, d'aider l'Ukraine, de soutenir l'Ukraine, militairement également, pour que, lorsque Poutine tournera à nouveau son regard sur l'Ukraine, il ne recommence pas une deuxième fois. C'est cela qu'il faut faire, parce qu'évidemment, la Russie ne respectera pas les cessez-le-feu avec l'Ukraine toute seule. Les Russes ne l'ont jamais fait. Ils ont violé les accords de Minsk dès le début, et il n'y a aucune raison de leur faire confiance. C'est parce que vous ne pouvez pas leur faire confiance que l'Europe doit agir. Ce n'est pas suffisant de dire « Oh, les Américains sont peu fiables et les Russes non plus ». Bien sûr que c'est le cas. Alors la question devient, en tant qu'Européens, que faites-vous pour façonner la situation de la manière dont vous le souhaitez ?
Il y a quelque temps, vous disiez que tous les empires finissent par aller trop loin et par s'effondrer. Pensez-vous que ce soit également vrai pour la Russie, qui agit de fait comme un empire ?
Bien sûr, tous les empires finissent par s'effondrer. Mais plus précisément, c'est aussi un fait que les empires ont tendance à perdre des guerres. Lorsque ces guerres commencent, si nous ne pensons pas d'un point de vue historique, nous nous disons « Oh, le grand pays doit toujours gagner » ou « l'empire doit toujours gagner ». Mais depuis 1945, cela n'a tout simplement pas été vrai. La puissance coloniale perd généralement, puis oublie sa défaite. C'est ce qui est le cas pour les Français ou les Américains. Et il est donc très important pour nous de penser historiquement et de réaliser qu'en fait, non seulement les empires perdent souvent, mais aussi que la seule façon pour un pays de devenir normal est de perdre ses guerres impérialistes. Il est très important pour l'Allemagne, la France, la Belgique et tous les autres pays européens de perdre leurs guerres impérialistes. C'est ce qui leur a permis de devenir les lieux très attrayants qu'ils sont aujourd'hui. Même si vous vous souciez uniquement de la Russie, vous devriez souhaiter la défaite de la Russie. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se souci de la Russie, y compris des Russes, le souhaitent parce que la défaite est la seule chance pour eux de passer à autre chose que le système qu'ils ont maintenant.
Timothy Snyder, interviewé par Emmanuel Chaz. $1,900,000, c'est le budget annuel consacré par la Russie à la propagande étrangère. C'est une des nombreuses informations mises à jour par une association qui met en lien des dizaines de chercheurs spécialisés dans la lutte contre les fausses informations. Le EU Disinfo Lab a son siège à Bruxelles et notre correspondante Elena Loison a pu leur rendre visite.
Dans les locaux de l'association au cœur de Bruxelles, une petite dizaine de salariés scrutent au quotidien toutes les nouvelles études et initiatives consacrées à la désinformation. Le directeur du EU Disinfo Lab, Alexandre Alaphilippe, a pour ambition de proposer une plateforme qui centralise les connaissances sur le sujet.
L'activité principale qu'on a, c'est de lire tout ce qui sort. Quand on a 200, 300 parties prenantes qui travaillent sur le même sujet, de dire, bon, alors ça part dans tous les sens, qu'est-ce qu'il faut lire et sur quoi il faut se concentrer ? Donc c'est principalement du travail de digestion et d'éclairage.
Né en 2017, dans la foulée des attentats, mais aussi de l'élection de Trump et du Brexit marquée par des ingérences étrangères, L'association se veut être une courroie de transmission qui favorise les liens entre plusieurs centaines de chercheurs, activistes et associations de toute la planète mobilisées contre la désinformation.
Très souvent, y a une étude qui sort où y a quelqu'un qui dit « Ah, je travaille sur tel sujet-là ». On dit « Mais tu sais que machin ou machine travaille aussi là-dessus ». Parlez-vous, parce que c'est un peu bête si vous faites du travail en double pour faire exactement le même truc. Peut-être que vous avez des données à vous échanger et parlez-vous. On fait un webinaire très prochainement sur comment on peut construire des alternatives aux algorithmes des plateformes.
Plusieurs fois par mois, le EU Disinfo Lab organise des webinaires pour diffuser les innovations et recherches récentes, comme cette étude consacrée à la lutte contre la diffusion en ligne de musique aux paroles racistes, sexistes, antisémites, générées via intelligence artificielle par des groupes d'extrême droite.
Good afternoon, everyone. Thank you for joining us.
Ce jour-là, un séminaire consacré aux manières de mesurer l'impact des campagnes de désinformation est animé par un chercheur spécialisé.
Aujourd'hui, j'aimerais parler des enseignements que l'on peut tirer principalement de l'Ukraine dans le contexte de la guerre cognitive hybride entre la Russie et l'Ukraine.
Zviatoslav Nizdovsky, conférencier du jour, conseille notamment le gouvernement ukrainien dans sa lutte contre l'influence russe. Sur son écran, il fait apparaître un chiffre, 1 milliard 900 millions.
Je vais commencer avec ce chiffre. D'après des estimations basses du site debunk.org, c'est le budget que la Russie dépense chaque année dans la propagande étrangère en influence étrangère.
Dans la salle virtuelle, une grosse centaine de participants, ils viennent des quatre coins de l'Europe, mais aussi d'Asie ou d'Amérique du Nord. Le EU Disinfo Lab a fait sa renommée internationale en travaillant à plusieurs enquêtes d'ampleur. En 2019, l'association a par exemple révélé l'existence d'un vaste réseau d'influence indien, composé notamment de centaines de sites internet de faux médias, créés pour relayer des événements organisés contre le Pakistan, propager un sentiment anti-pakistanais et appuyer les velléités de contrôle indien sur la région du Cachemire en influençant les décideurs européens. Mais le retour au pouvoir de Donald Trump et avec lui la volte-face des GAFAM sur la modération des fake news fait prendre une nouvelle ampleur aux missions de l'association.
Ça a été le point de départ d'une bascule complète des acteurs vers une position beaucoup plus confrontationnelle et une position de dire « je fais le minimum et quelque part venez me chercher ». Il y a un vrai changement de ton et de position. Donc il y a beaucoup de risques sur la capacité de pouvoir agir sur ces entreprises dans le futur.
La nouvelle administration américaine génère également des inquiétudes quant au financement de la lutte contre la désinformation. L'Agence des États-Unis pour le développement international, brutalement fermée il y a quelques jours, consacrait plusieurs centaines de millions d'euros par an à soutenir des médias indépendants, notamment en Ukraine, mais aussi à financer des associations et institutions de lutte contre la désinformation. Le secteur craint que la fin de ces financements entraîne une hausse de la désinformation et une baisse de la capacité à lutter contre.
Activité sismique à haut risque en Grèce et l'épicentre n'est autre que l'île la plus touristique des Cyclades, Santorin. L'île a accueilli 3,5 millions de touristes l'an dernier et doit sa renommée internationale à une position géographique unique à la surface d'un volcan géant en partie englouti sous les eaux. Bref, Joël Brunner, les séismes font partie de son histoire.
Son paysage de carte postale, que les visiteurs se délectent d'afficher sur Instagram, l'île la doit à une puissante éruption volcanique 1600 ans avant notre ère. La Santorin antique est alors en partie détruite et laisse place à l'île moderne et une poignée d'îlots. Au XVIIe siècle, l'éruption du volcan voisin, Colombo, affecte à nouveau la tranquillité de l'île. Plus près de nous, l'histoire récente de Santorin a cette fois été marquée par un tremblement de terre estimé à environ 7,5 sur l'échelle de Richter entre les îles d'Amorgos et de Santorin. Nous sommes alors en 1956 et ce séisme donne aussi naissance à une vague géante, un tsunami. L'épisode fait plus de 50 morts dans la région et de nombreux dégâts. Entre 2011 et 2012, sur une période de 14 mois, l'île est ensuite affectée par une recrudescence de l'activité sismique sans que cela ne débouche sur un séisme majeur ou une éruption volcanique. À présent, cette activité sismique que certains spécialistes attribuent à des mouvements souterrains de magma a repris sans que l'on sache pour combien de temps et avec quelles conséquences. De quoi rappeler aux visiteurs que faire la fête à Santorin, c'est toujours un peu l'équivalent, littéralement, de danser sur un volcan.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur les réseaux sociaux et l'application Pure Radio. À demain.